Bonjour Jérôme Gadge.
Bonjour.
Emmanuel Macron a confirmé sa confiance à Elisabeth Borne et l'a chargé de former un nouveau gouvernement début juillet. Un gouvernement qui sera ouvert aux forces politiques prêtes à coopérer avec la majorité, a précisé le président de la République, à l'exclusion de la France Insoumise et du Rassemblement National. Pensez-vous que dans ces conditions, il soit possible de former un gouvernement qui obtienne la confiance de l'Assemblée ?
Je ne sais pas si ce sera possible de former un gouvernement, mais je trouve que cette formulation est extrêmement problématique. Moi, j'ai du respect pour la fonction présidentielle, pour le président de la République. Il a été légitimement élu, mais dans un contexte particulier. J'ai voté pour lui au deuxième tour de l'élection présidentielle, mais pas par adhésion à son projet, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Et depuis, j'ai le sentiment, partagé je crois par beaucoup de gens, qu'il fait comme si tout ceci n'était pas arrivé, qu'il avait été élu triomphalement à l'élection présidentielle et que derrière, son programme avait été validé à l'occasion de l'élection législative. Et ça, c'est la première difficulté, c'est une forme de déni. Et puis la deuxième difficulté, qui pour moi est beaucoup plus problématique, c'est cette espèce de définition d'un cercle de la raison, de gens qui seraient fréquentables et d'autres qui ne le seraient pas.
Il dit à propos de LFI, le président de la République, à propos de LFI et du Rassemblement National, que, je cite, « par leur expression, leur positionnement, ils ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement
». Mais qui définit ce qu'est ou ce que n'est pas un parti de gouvernement ? Quelle est l'expression qui rend la France insoumise impossible d'exercer des responsabilités gouvernementales ? Est-ce que c'est parce que la France insoumise, d'ailleurs repris dans l'accord avec la NUPES, défend le SMIC à 1 500 €? Est-ce que c'est parce que nous sommes pour bloquer les prix des produits de première nécessité? Est-ce que c'est parce que nous sommes contre la retraite à 65 ans et pour aller vers la retraite à 60 ans? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas un parti de gouvernement, hormis cette position, pardonnez-moi de le dire, que je trouve un peu suffisante? C'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Je reprends l'expression de François Sureau, pour ceux qui ont pu voir l'émission hier soir sur France 5, qui était lumineuse, d'une sorte, voilà, une sorte de cercle de la raison dans lequel des belles personnes décideraient qui est fréquentable et qui n'est pas fréquentable. Et pire encore, en mettant un signe égal pour justifier cette infréquentabilité entre la France insoumise et le Rassemblement national.
Alors justement, c'est-à-dire que ce que vous trouvez injuste pour qualifier LFI, vous le trouvez alors plus qu'injuste, vous diriez quoi ? Infamant ?
Oui, c'est un peu infamant, puis surtout c'est absolument contradictoire avec le message premier assez nécessaire qu'a formulé le président de la République la semaine dernière quand il a dit « le contexte politique nous oblige à gouverner et à légiférer différemment ». Gouverner en considérant que une partie non négligeable de la population ne serait pas digne de représentation ou en tous les cas de participation à ce travail collectif, je trouve ça problématique.
Ce que vous trouvez donc infamant pour la France insoumise, le trouvez-vous pertinent pour le Rassemblement national ? Considérez donc que ce n'est pas un parti de gouvernement, ou pour reprendre d'ailleurs l'expression employée il y a quelques jours par le nouveau ministre des Relations avec le Parlement, Olivier Véran, qui avait dit d'ailleurs à propos de ces deux partis qu'ils n'étaient pas dans l'arc républicain.
Mais vous vous rendez compte, voilà, là aussi dire dans l'arc républicain...
Ça veut dire qu'il y a des partis non républicains au sein de l'Assemblée nationale.
Alors dans ce cas-là, ça pose un problème, parce que si on n'est pas républicain, on a depuis des années, gens qui nous expliquaient, ceux qui sont en dehors du champ républicain, ce sont des séparatistes, et donc il faut les combattre, etc. Moi, je les combats politiquement, mais expliquer qu'ils ne peuvent pas participer de la discussion... Alors, pour répondre précisément à votre question, moi, je ne mettrai jamais un signe égal entre le Rassemblement national, qui procède d'une culture et d'une histoire politique qui est celle de l'extrême droite, et la France insoumise, qui est celle...
Qui n'est pas issue de l'extrême gauche.
Qui n'est pas du tout issue de l'extrême gauche. L'extrême gauche, mais demandez à n'importe quel historien de la vie politique, c'est un mouvement politique, aujourd'hui très réduit, qui a des principes qui sont, par exemple, le refus de la propriété privée, la contestation de l'organisation de l'économie de marché, la collectivisation des moyens de production.
Et l'extrême droite, ce n'est pas l'antiparlementarisme.
Il ne faut pas confondre la gauche radicale, qui d'ailleurs qui est portée par la France insoumise, qui a réenchanté d'une certaine manière le discours politique à gauche, et moi je m'en félicite, je me félicite. Même si ça s'est fait au gré d'une bataille culturelle menée à gauche, elle a été emportée par la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, c'est un fait. Et elle fait, moi je demeure socialiste, je suis socialiste, je vais me frotter intellectuellement à tout cela. On a un programme qui est celui de la nouvelle union populaire écologique et sociale. Et je trouve que c'est bon dans la réhabilitation du clivage gauche-droite dans le pays.
Voilà. Et l'histoire de l'extrême droite, ça n'est pas l'antiparlementarisme d'abord ?
Ah, mais l'histoire de l'extrême droite, précisément, de l'affaire Dreyfus jusqu'à la fondation du Front National, c'est la contestation d'un certain nombre de valeurs républicaines. C'est y compris parfois le recours à une forme de violence dans la vie politique. C'est la collaboration pendant l'occupation. Enfin, je veux dire, c'est une histoire qui a perlé. Alors, je dis pas que les électeurs du Front National ou du Rassemblement National adhèrent en bloc à cette culture politique-là. Je dis que ce parti procède de cette histoire et qu'on peut pas enjamber d'où on vient.
Voilà. Alors, donc pour le président de la République, vous, par exemple, vous pourriez travailler avec un gouvernement de coalition puisque vous n'êtes pas estampillé LFI, vous êtes PS.
Ce que je trouve, si je peux me permettre, assez cocasse, oui. Pendant la campagne électorale, mon adversaire, qui était ministre, qui l'est encore, je crois, mais elle va démissionner, Madame de Montchalin, m'avait taxé d'anarchiste d'extrême gauche, sous influence de puissance étrangère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était totalement infréquentable. Enfin, ces gens-là ne savent pas où ils habitent. Alors, avant le deuxième tour de la présidentielle, nous partagions des valeurs communes avec La République En Marche pour faire barrage au Front National. Après, on était totalement infréquentable. Après, on le redevient. Enfin, je veux dire, ce girouettisme politique, il est totalement insupportable et il décrédibilise. Et on est dans la période, on a besoin de gens qui ont la tête froide et qui sont responsables. Moi, il y a une réalité politique, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Il y a une minorité présidentielle, il n'y a pas de majorité présidentielle. C'est certes la minorité la plus importante. Et donc, il faut que chacun se lave la tête, pardonnez-moi l'expression, et comprenne qu'on est dans une nouvelle donne dans laquelle il faut qu'on soit responsable.
Une minorité la plus importante, c'est une majorité.
Non. Une majorité, c'est 50% plus 1. C'est pas le cas.
Oui,
et donc, c'est pas grave.
C'est le groupe qui a le plus d'élus, c'est le groupe.
Oui, mais qui ne peut pas légiférer à lui tout seul, qui donc doit construire des coalitions ou des accords au cas par cas. Et c'est là qu'on se fracasse aussi sur une autre difficulté. Emmanuel Macron l'a dit dans sa prise de parole, en demandant aux uns aux autres, je vais les solliciter pour voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Mais sur la base de quoi? Je ne sais toujours pas quel est le projet du président de la République, hormis le seul qu'il a mis sur la table à l'instant T, qui était la retraite à 65 ans et dont il ne parle plus fort opportunément. C'est déjà un des acquis précieux des résultats de l'élection législative.
Alors justement, le groupe des députés Renaissance va déposer une proposition de loi pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. C'est une réaction à la décision de la Cour suprême américaine. Vous allez soutenir, les élus de gauche vont soutenir cette initiative, qui, d'ailleurs ils avaient prise même il y a quelques années. Est-ce que ça n'est pas la preuve que des majorités au cas par cas peuvent être trouvées ?
Mais comme ça peut arriver plein de fois dans la vie parlementaire, y compris quand il y a une majorité absolue. Je veux dire, le travail parlementaire, c'est aussi parfois que l'opposition, fort heureusement plus souvent qu'on ne le pense, contribue à enrichir, à améliorer, à travailler sur des textes à l'Assemblée nationale. Sur l'IVG, nous, on peut que se féliciter du changement de pied. Dans la précédente mandature, ceux-là même qui étaient hier aux responsabilités, je me rappelle de l'intervention de Nicole Belloubet quand elle était saisie de propositions portées par des parlementaires socialistes, par des parlementaires insoumis et communistes, etc., pour déjà constitutionnaliser le droit à l'IVG, parce que nous sentons bien, comme le disait Simone de Beauvoir, que ce droit doit être défendu, préservé, qu'au fil du temps, il faut justement être vigilant et vigilante. À l'époque, ils avaient dit non, voilà, avec une fin de non-recevoir assez, assez brutale. Tant mieux si la position a évolué. Et donc, réfléchir et travailler collectivement, intelligemment, ça ne me pose pas de problème autour de valeurs et de principes essentiels.
Merci Jérôme Guedj, bonne journée.